Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Pour Saint Jean de la Croix, la nuit n'est pas l'absence de Dieu, mais parfois le chemin le plus profond pour le rencontrer. Comment comprendre ce paradoxe de la vie spirituelle ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vivante Église. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre un peu ce cheminement avec cette figure du docteur de l'Église, d'un grand mystique espagnol, Saint Jean de la Croix. Dans notre précédente émission, nous avions revu un peu les grandes lignes de sa vie et découvert le magnifique Cantique spirituel, ce poème qui décrit la quête de Dieu comme une histoire d'amour entre l'âme et le bien-aimé. Aujourd'hui, nous entrons dans deux œuvres importantes dans la pensée de Jean de la Croix, La montée du Carmel et La nuit obscure. Dans ces textes, Saint Jean de la Croix décrit un chemin intérieur, exigeant un chemin de purification et de liberté qui conduit progressivement l'âme vers l'union avec Dieu. Ce chemin passe parfois par ce qu'il appelle la nuit, un moment de dépouillement, de silence, où les certitudes humaines s'effacent pour laisser Dieu agir plus profondément. Alors pour nous aider un peu à comprendre ces grands textes, j'ai la joie de retrouver au micro et pour intervenant François Bonfils. Bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes professeur agrégé de littérature à l'université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de la littérature mystique espagnole et notamment avec les œuvres de Saint Jean de la Croix et licencié en théologie. Vous travaillez depuis longtemps donc ces textes majeurs de la spiritualité chrétienne sur leur recherche littéraire mais aussi sur leur profondeur spirituelle. Alors merci beaucoup d'être encore parmi nous. Alors qu'est-ce que la montée du Carmel et dans quel contexte Jean de la Croix écrit-il la montée du Carmel? Voilà. Éclairez-nous et puis donnez-nous quelques points aussi d'indication sur cette œuvre en particulier. Et merci.
Alors, la montée du Carmel est un traité de spiritualité. C'est un manuel, pourrait-on dire, de la vie mystique. Pas simplement de la vie chrétienne, mais un livre qui donne des instructions pour accomplir un cheminement spirituel qui conduise à l'union avec Dieu. La montée du Carmel est une métaphore. Le Carmel, c'est la montagne du prophète Élie. En haut de la montagne se trouve Dieu. Comment fait-on pour gravir cette montagne et aller à la rencontre de Dieu? Le Carmel étant le lieu symbolique de fondation de l'ordre du Carmel auquel appartenait Jean de la Croix. Alors, ce traité est écrit bien après l'événement de l'emprisonnement de Jean de la Croix dont nous avons parlé précédemment. C'est un traité théorique qui est écrit à destination de ce qu'on appelait les dirigés de Jean de la Croix, donc les religieuses qui l'accompagnaient, ses disciples spirituels. Et il va rendre compte de façon théorique des méthodes qui sont utile pour gravir les différentes étapes de la vie spirituelle. Pour cela, il faut le replacer dans son époque. Jean de la Croix est un homme de la Renaissance et les catégories de l'âme, pour reprendre certaines de ses expressions qu'il va décrire, la façon de les progresser, de les faire progresser, d'améliorer les vertus, répondent aux catégories du XVIe siècle. La montée du Carmel est très importante dans l'histoire de la représentation de la psyché, parce que c'est une description de la vie intérieure de l'homme, comment on se la représentait à son époque. Il y a donc des éléments qui, aujourd'hui, peuvent nous paraître manquants, comme la notion d'inconscient, enfin, vous voyez, il y a des choses. Voilà. Mais c'est une cartographie mentale du XVIe siècle. Jean de la Croix imite en cela le projet de Thérèse d'Avila, qui est sa maîtresse spirituelle, dans le château intérieur. Oui. Thérèse prend la grande métaphore du château, qui est le château est l'âme, et il y a différentes pièces dans ce château. La vie spirituelle consiste à passer d'une pièce à l'autre pour atteindre le centre du château, le donjon où se trouve le Seigneur, qui est le maître du château. Jean de la Croix ne prend pas la métaphore du château, mais la métaphore de la montagne. Et il faut gravir la montagne. Voilà, c'est ça la montée du Carmel. Je vais vous aider à gravir la montagne. Alors, on peut lire ce livre d'une façon suivie, avec toute la méthodologie, mais on peut entrer dans ce livre par chapitre, suivant des thèmes auxquels on s'intéresse.
Qu'est-ce que vous conseillez à ceux et celles qui vous écoutent dans ce Vivante Église, qui n'ont peut-être pas encore fait une approche totale de ce grand mystique espagnol? Je rappelle qu'il est un grand poète, qu'il est aussi docteur de l'Église et au fond grand maître spirituel. Comment donc entrer, lire cette montée du Carmel? Alors, vous avez parlé de montagne aussi. Est-il facile de monter vers cette montagne et devenir lecteur de la montée du Carmel? Quels sont un peu les conseils que vous pouvez donner?
Alors, le premier conseil que je donnerais à un lecteur qui ouvrirait la montée du Carmel, c'est d'aller aux illustrations. Hein, on fait souvent comme ça quand on lit un livre. Eh bien, Jean de la Croix a illustré son traité. On a plusieurs manuscrits de lui où il fait une sorte de résumé, de carte de la montée du Carmel. C'est une gravure. Enfin, ensuite, ça a été gravé lors de l'impression de l'ouvrage qui fut publié en 1618, donc en édition posthume. Et vous avez véritable gravure qui illustre les différents sentiers pour atteindre la montagne. Et les sentiers correspondent à des états de l'âme, à des pratiques de l'âme. Il y a des rivières. Et autour de ce sentier, de ce tableau, on pourrait en dire, s'établit tout un système qu'on peut appeler une grande allégorie de la vie spirituelle. Donc la meilleure façon d'entrer dans le livre, c'est déjà de regarder cette illustration que Jean de la Croix a voulu lui-même pour résumer. Je précise que ces grandes cartes visuelles de la vie spirituelle vont donner naissance ensuite dans l'histoire des représentations à ce qu'en France, par exemple, on appellera la carte de Tendre, dont se moquera beaucoup Molière, la carte de Tendre, qui est une transposition humaine, amoureuse, de la carte du Mont Carmel de Jean de la Croix, c'est-à-dire représenter les sentiments amoureux comme des étapes dans un paysage. Voilà. Mais chez Jean de la Croix, il n'y a pas le lac d'indifférence dont se moquait Molière.
Alors, dans cette montée du Carmel, il décrit un véritable chemin de transformation intérieure. Il décrit aussi, dans cette montée du Carmel, aussi cette question aussi du détachement. Pourquoi met-il l'accent sur le détachement et puis, au fond, cette transformation intérieure? Qu'entend-il? C'est de l'ordre aussi de la conversion du cœur de l'homme, du cœur intérieur, de ce qu'on peut appeler cette conversion aussi du vieil homme.
Alors, le détachement est une notion constante dans toutes les étapes de la vie spirituelle pour Jean de la Croix. Il faut replacer ce concept dans la civilisation à laquelle il appartient. Une civilisation où le desengaño, le désabusement, le grand désabusement baroque qui viendra juste après lui, est une référence constante de la réflexion philosophique, spirituelle. Donc le détachement renvoie à cette distance qu'on a par rapport au monde. Et elle est toujours présente dans l'œuvre de Jean de la Croix, même au moment des grandes extases mystiques. Alors effectivement, le détachement commence par ce que Jean de la Croix appelle une purification nécessaire. En fait, il établit des étapes dans la vie spirituelle.
C'est comme un programme de vie.
C'est comme un programme de vie. On a des étapes et qui correspondent d'ailleurs à des états de vie religieuse. Ce que vont faire les regardants, les novices, les jeunes professes, les religieux plus avancés. Ces modèles de vie spirituelle sont aussi proposés aux laïcs. Du temps de Jean de la Croix, il y a des laïcs qui suivent ces enseignements, ce qu'on appelle l'ordre séculier, carme ou tiers ordre. Les enseignements sont pour des religieux, mais aussi pour tous les peuples, et donc pour tous les hommes. Donc, il présente une méthodologie, et cette méthodologie, en fait, correspond ou s'applique aux différentes étapes. Et dans toutes les étapes, il y a le détachement dont vous parliez.
Alors, ce n'est pas moi, c'est Jean de la Croix, et docteur grand mystique, qui en parle dans toutes ses œuvres de ce détachement et au fond pour qu'il y ait aussi cette purification du cœur, de l'âme et de la transformation totale. Ça peut paraître très radical dans une époque et dans ce troisième millénaire. François Boffis, comment adapter et garder ce programme de Jean de la Croix tout laïc, pour tout religieux, dans une époque de consommation où tout va vite dans l'air du temps, dans l'air aussi des réseaux sociaux? Comment garder un tel programme, qui est un véritable programme spirituel, en vue d'un chemin de sainteté, au fond?
Oui. Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut avoir conscience que Jean de la Croix est un auteur ascétique. Donc, il y a un parti pris, lorsqu'on veut le suivre, par les chemins escarpés, c'est son expression. Hein. Il y a un parti pris où il faut prendre une décision de suivre son chemin. Et il le dit lui-même, d'accord ? Il appelle ça, c'est la première étape de la vie spirituelle, donc qui est valable aujourd'hui comme elle l'était au XVIe siècle, ce qu'il appelle la nuit active des sens et la nuit active de l'esprit. C'est-à-dire par un acte de la volonté qui débouche sur des actions concrètes, renoncer à tout ce qui fait obstacle à la présence de Dieu. Alors, cette nuit active, c'est une sorte, pourrait-on dire, de désactivation de l'âme. Hein, j'emploie cette expression par rapport à ce que vous disiez, les réseaux sociaux, etc. Il faut déconnecter. Donc il y a une invitation, par exemple, au silence. Et Jean de la Croix donne des méthodes pour être en silence. On peut lire les chapitres sur le silence dans la montée du Carmel. Il va nous expliquer aussi comment on peut se détacher de certains éléments de l'imagination. Et là, c'est très intéressant. Son chemin, par exemple, est très différent de celui d'Ignace de Loyola. Jean de la Croix a été marqué par les jésuites dans son enfance, qui sont fondés... il était un contemporain d'Ignace de Loyola. On sait qu'Ignace de Loyola travaille beaucoup avec l'imagination dans sa vie spirituelle. Jean de la Croix, lui, invite à... restreindre la pratique de l'imagination. Vous voyez, la nuit active des sens et de l'esprit, c'est ça, c'est se déconnecter volontairement de tout ce qui peut venir brouiller le réseau, en quelque sorte.
Alors aujourd'hui, on aurait parfois besoin d'apprendre cette déconnexion. Alors pourrait-il peut-être être un bon maître aujourd'hui, un bon guide pour une telle opération de déconnexion? Permettez-moi d'avoir un peu de légèreté et d'humour dans cette émission, mais oui.
Oui, alors je pense que oui. Alors, toujours avec les catégories qui sont les siennes d'hommes de la Renaissance, il nous explique qu'une forme de l'ascèse touche les puissances de l'âme. C'est-à-dire que nous savons que nous avons une intelligence, une mémoire, une volonté. Intelligence, mémoire, volonté sont les trois puissances de l'âme dans cette cartographie de la psyché à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Jean de la Croix, dans La Montée du Carmel, et vos auditeurs pourront aller lire les chapitres qui concernent ces parties, nous explique comment avoir une ascèse de l'intelligence. C'est-à-dire, non pas que l'intelligence soit mauvaise, mais comment, en quelque sorte, la calmer pour laisser advenir autre chose qui est beaucoup plus important, qui est l'amour. Et il va expliquer la même chose pour la mémoire, c'est-à-dire la vie spirituelle suppose un certain oubli. Si je suis toujours en train de regarder les choses de mon passé, y compris des bonheurs de mon passé, alors je ne peux pas m'ouvrir à l'esprit qui est toujours devant moi. Donc l'ascèse de la mémoire, et il donne des indications pour cela. Pareil pour la volonté. Jean de la Croix, dans La Montée du Carmel, explique que la clé, c'est la négation. Alors, c'est assez difficile à comprendre. On l'a vu, c'est un théoricien du rien. Mais pour atteindre le rien, il faut nier ce qu'on a en soi-même. Et donc, par exemple, la volonté de certaines choses, je veux ça pour ma vie spirituelle, eh bien, travailler sa volonté pour avoir le moins de volonté possible. Ça, c'est la nuit active de l'esprit que je résume très vite. Mais ça, c'est la dimension humaine, ce que soi-même on apporte dans sa vie spirituelle et qu'on met en pratique. Par exemple, et même parfois à certains moments de l'année, comme pendant le carême. Mais Jean de la Croix va beaucoup plus loin dans la montée du Carmel, parce qu'il s'adresse à des âmes qui sont déjà très élevées dans la vie spirituelle. Donc on a des clés, même si soi-même on n'atteint pas les degrés qu'il décrit, on peut, en le lisant, se faire une idée de ce que le grand priant chrétien éprouve. Et là, toute cette dimension que Jean de la Croix va résumer dans ce qu'il appelle la nuit passive de l'esprit, c'est un moment où, après avoir appliqué les règles que vous trouverez dans ces ouvrages, vous laissez Dieu faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est la doctrine du grand abandon. C'est, au sens littéral, se laisser porter par l'esprit, mais qui est une ascèse. On n'est pas directement porté par l'esprit. Cette doctrine du grand abandon peut conduire, et beaucoup de lecteurs contemporains ont lu Jean de la Croix, vers l'idée qu'il n'y a rien. Mais l'invitation de Jean de la Croix à la fin, c'est de consentir à la foi. C'est-à-dire, dans le vide n'est pas une pure béance, un trou. Ce vide est une invitation à aimer Dieu dans la foi, consentir à la foi. La foi n'est pas un donné préalable. La foi, c'est le lieu de rattachement, le lieu de l'abandon. Je m'abandonne à la doctrine commune quand j'ai atteint le rien.
Alors ça, c'est tout un véritable programme, un programme que Sainte Thérèse de Lisieux avait adopté. Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, on parlait de disciple, une disciple de Thérèse d'Avila, mais du grand Saint Jean de la Croix également.
Il est probable que Thérèse de Lisieux connectait davantage avec Jean de la Croix qu'avec Thérèse de Lisieux. L'occasion d'autres conversations. Mais lorsqu'elle dit, par exemple, « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour », c'est quasiment une citation de Jean de la Croix. Il y a de nombreuses citations de Jean de la Croix dans l'œuvre de Thérèse. Elle était maîtresse des novices de son Carmel et elle a enseigné le contenu de la montée du Carmel. Mais la montée du Carmel de Jean de la Croix est une œuvre difficile et elle l'était pour Thérèse de Lisieux. Et Thérèse de Lisieux, quand on dit Thérèse de Lisieux ouvre sur la spiritualité moderne, face à cette montée difficile dont il faut gravir différentes étapes et différents chemins, elle propose, elle demande la solution de l'ascenseur. Elle dit « Je veux un ascenseur qui me conduise tout en haut des étages des immeubles. » Il faut comprendre la transposition moderne au XIXe siècle de cette montée, de cette randonnée pour gravir le Carmel. Ça ne veut pas dire que Thérèse ignorait les méthodes que propose Jean de la Croix. Mais disons qu'elle va, elle va simplifier ce grand traité systématique qu'est la montée du Carmel.
Et au fond, ce grand programme, parce qu'il est question aussi d'un grand programme de vie spirituelle.
Oui. En dernier lieu, ce qui intéresse Jean de la Croix, c'est la vie spirituelle, ce qu'il appelle la vie unitive, l'union de l'âme avec Dieu, dont nous avons parlé au sujet du cantique spirituel. Mais Jean de la Croix est aussi un grand intellectuel. C'est un aspect qu'il ne faut jamais oublier. C'est quelqu'un qui a eu une formation intellectuelle du plus haut niveau de son époque. Il a été élève des universités de Salamanque, il a travaillé à l'université d'Alcalá de Henares, il a été en lien avec les grands humanistes de Baeza en Andalousie. Et donc, son traité est aussi, enfin, la montée du Carmel, c'est aussi le traité d'un savant, à la différence de Thérèse de Lisieux, qui, elle, n'a pas ses prétentions. Donc, il ne faut pas les destinataires des œuvres, enfin, l'ambition d'Histoire d'une âme pour Thérèse de Lisieux et de La montée du Carmel pour Jean de la Croix ne sont pas les mêmes. Le but est le même, c'est toujours la rencontre avec Dieu, mais les méthodologies sont différentes.
Alors, pour ceux qui écoutent cette émission de Vivante Église, eh bien, peut-être commencer peut-être par Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, avec une histoire d'une âme, vous l'avez rappelé, et pourquoi pas se laisser aussi guider, puisqu'elle a été elle-même, de son temps, maîtresse des novices, disciple de Jean de la Croix, se laisser aussi conduire vers cet autre mystique et docteur qu'était Saint Jean de la Croix. François Bonfils, je vous propose de vous retrouver après une plage musicale et on va entendre le chanteur justement, qui est un frère carme, Pierre Eliane, sur La nuit obscure, puisqu'il sera question dans quelques minutes, dans cette deuxième partie de Vivante Église, de La nuit obscure. A tout de suite.
Par une nuit obscure, anxieuse et d'amour embrassée, l'heureuse aventure, je sortis sans être remarqué. Et ma maison était en paix. Dans l'obscur, très sûr, par l'échelle secrète et déguisée. Oh, l'heureuse aventure dans l'obscur, avec rapidité. Et ma maison était en paix. Dans cette nuit de félicité en secret, et nul ne me voyait. Je ne voulais rien regarder si ce n'est la lumière. Dans mon cœur me brûlait. Et cette lumière me guidait plus sûrement que la clarté de midi. Là où il m'attendait, moi, je savais bien qui. En un lieu nul ne paraissait. Oh, nuit qui me guidait, oh, nuit plus aimable que l'aube d'un été. Oh, nuit qui unissait le bien-aimé avec la bien-aimée. La bien-aimée en l'aimé. Saint fleuri qu'entier pour lui seul je gardais. Là, il resta endormi et je le caressais. Et l'éventail des cèdres l'éventait. Le vent qui soufflait du créneau quand ses cheveux je dénouais. De sa main au repos, mon cou me blessait. Et tous mes sens suspendaient. Je suis resté dans l'oubli, mon visage appuyé sur l'aimé, abandonnant mon souci, tout César, et je m'abandonnais. Oublié entre les lys, we'll be right back.
présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de cette émission de Vivante Église après la montée du Carmel, eh bien, je vous propose de faire un tout autre, mais on continue le programme. On poursuit le chemin de foi, chemin spirituel, avec un texte célèbre, enfin des écrits célèbres, des poèmes de Saint Jean de la Croix. Je rappelle que c'est un mystique, hein, un docteur de l'Église, et que je reçois aujourd'hui au micro pour en parler François Bonfils. François Bonfils, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de littérature à l'Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de la littérature mystique espagnole et notamment des œuvres de Saint Jean de la Croix, et que vous êtes licencié en théologie. Alors après cette montée du Carmel, François Bonfils, je vous propose d'ouvrir une autre fenêtre sur aussi Jean de la Croix et puis ses œuvres, et en particulier cette œuvre aussi de la nuit obscure, cette nuit obscure avec cette expression aussi, nuit obscure, que dit et que veut-il exprimer donc dans cette œuvre de la nuit obscure ? Et merci.
Alors, la nuit obscure est un poème, l'un des poèmes les plus célèbres de la littérature espagnole, que Jean de la Croix a donc écrit en 1578 dans le cachot où il avait été enfermé parce que jugé comme étant un religieux trop désireux de modifier la vie de sa communauté. Alors, La nuit obscure, c'est un poème, mais après, au cours de sa vie, Jean de la Croix va commenter point à point ce poème. Mais je vous invite, enfin, je nous propose de nous attacher au sens littéral du poème.
Alors, je me permets aussi, et vous avez vous-même traduit La nuit obscure.
Oui, enfin, j'ai traduit la totalité de la poésie de Jean de la Croix.
On vous écoute.
Alors, la nuit obscure renvoie tout d'abord à deux choses. L'expérience concrète de la nuit que Jean de la Croix vit dans son cachot, où il était enfermé sans lumière, donc une expérience de l'absence de lumière et de déréliction, puisqu'il était mal nourri, il était frappé. Et il n'avait aucune connexion avec le monde sensible. Donc la nuit obscure renvoie à l'expérience carcérale. Mais dans le poème, la nuit obscure renvoie également à une scène stéréotypée, la nuit comme moment traditionnel de la rencontre des amants. Et ce poème décrit dans l'expérience du cachot l'expérience personnelle de Jean de la Croix d'intimité avec Dieu, malgré la nuit, malgré la déréliction, à travers l'image d'une jeune fille qui va rencontrer son amant nuitamment. Tout le poème est un poème érotique qui peut être lu de façon symbolique. Autrement dit, il y a un sens littéral, et après il y a un sens symbolique, un sens mystique. Bon, Jean de la Croix a parlé des différents degrés d'interprétation de ses poèmes. On va s'en tenir à ces deux aspects-là. Des poèmes érotiques chez des auteurs mystiques, c'est un phénomène nombreux. Dans le christianisme, ce qui autorise ce type de symbolique, ce type de correspondance, pourrait-on dire, entre l'amour d'un homme et d'une femme et l'amour d'une âme avec Dieu, c'est bien entendu le Cantique des Cantiques dans la Bible, qui est tout un livre qui décrit le lien entre... il peut se lire à plusieurs degrés, mais c'est une femme qui est amoureuse d'un homme qu'elle va épouser, qui est l'image de l'union d'Israël avec Yahvé et du Christ avec l'Église. Se fondant sur ce système de correspondance biblique, Jean de la Croix fait une œuvre personnelle. Et dans ce poème, il va se servir d'un modèle littéraire propre à la littérature de la Renaissance, qui est la fugue d'une jeune fille de chez elle. Le poème décrit la fugue pendant la nuit d'une jeune fille de sa maison pour aller rencontrer son amant. à travers l'écriture, il semble que Jean de la Croix anticipe la fugue qu'il fera de sa prison. Ouais. Alors, tout ça, ce sont des sens concrets qu'il y a dans le texte, mais il vaut mieux le suivre pas à pas pour pouvoir l'interpréter au plan spirituel, au plan du cœur à cœur avec Dieu que Jean de la Croix veut décrire. Mais il ne faut jamais oublier que ce poème se place dans tout un ensemble de conventions. Ce n'est pas du tout un poème qu'on pourrait qualifier de libre ou spontané. Il résulte de différentes couches de culture, et même au plan formel. Hein, on ne va pas le lire ici en espagnol, mais il obéit à des systèmes de versification et de mise en forme extrêmement rigoureux.
Est-ce qu'on peut dire que de ce poème de la nuit obscure de Jean de la Croix, c'est un des poèmes peut-être les plus exigeants de tout ce qu'il a pu
probablement,
écrire.
Oui, probablement. En tout cas, c'est probablement... Les jeux formels de Jean de la Croix sont assez grands dans sa poésie, mais la nuit obscure, bon, il faut dire aussi que c'est probablement la page la plus lue. Hein, mais c'est probablement l'un des poèmes les plus élaborés, les plus sophistiqués de la poésie saint-jeaniste.
Un texte les plus lus, vous l'expliquez comment ?
Parce qu'en fait, il est traditionnellement publié en premier dans tous les recueils, donc c'est celui qu'on lit en premier, et il manifeste, il est bref, à la différence du cantique spirituel qui est constitué de 40 strophes, ici nous n'en avons que 8, donc on peut le lire plus vite, et c'est une sorte de condensé de toute sa pensée. Donc il est très souvent présenté comme modèle de l'écriture de Jean de la Croix. S'il ne fallait lire qu'un seul poème de Jean de la Croix, il faudrait lire Nuit obscure.
Alors, parmi tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant dans cette émission et une émission précédente de Vivante Église autour de Jean de la Croix, les auditeurs qui vous découvrent, François Bonfils, et vous écoutent, c'est un conseil que vous pouvez donner là, maintenant, c'est-à-dire on n'a jamais lu du Jean de la Croix, alors pour s'y plonger, se plonger dans ce poème de la Nuit obscure, faire une lecture immédiate pour prendre du recul, méditer, peut-être prier sur ce poème de la nuit obscure.
Oui, on peut. Et si vous voulez, on peut essayer un petit peu d'entrer
dans
le texte.
On peut faire un petit exercice. Voilà. J'ai presque envie de dire professeur, spécialiste aussi des écrits de Jean de la Croix. Alors, peut-être pas toute l'intégralité, mais un petit peu.
Le poème est construit donc en un ensemble de 8 strophes. Qui tourne autour de la strophe numéro 5. Alors, quand les auditeurs liront le poème, il est très important d'avoir bien en tête que c'est une scène concrète qui est décrite. Les deux premières strophes décrivent la descente d'une jeune fille qui part de chez elle. Dans une nuit obscure, je sortis sans être remarqué, étant déjà ma maison reposée. À l'obscur et protégé, par la secrète échelle déguisée, à l'obscur et en secret. Autrement dit, elle descend de sa chambre par une échelle qui doit être contre le mur, alors que toute sa famille dort. La maison, c'est la famille. Elle quitte le monde rassurant de sa famille. Peut-être une image, vous voyez, de la communauté. On a vu précédemment que Jean de la Croix a eu une expérience radicale de désobéissance à l'ordre d'incarcération qu'il avait subi. Donc cette fuite de la maison, la transposition de la future fuite du château, c'est aussi la fuite, enfin, au sens symbolique, il exprime le départ de l'âme qui choisit de quitter la tranquillité de ses certitudes pour aller... Les strophes suivantes nous le disent, en un lieu où nul ne me voyait, en cachette, c'est une expérience profondément individuelle, en un lieu inconnu, un lieu qui est désigné par une lumière intérieure. C'est le feu qui brûle dans mon cœur, dit le poème. C'est un appel intérieur. Donc, cette jeune fille quitte sa maison la nuit, laissant ses parents, pour aller dans une ville qui se trouve dans la nuit. et elle est poussée par une ardeur intérieure, le désir de retrouver, dans le poème on ne sait pas encore qui, la seule qui le sait, c'est la jeune fille qui parle. Moi, je savais bien qui. Image de celui qui va chercher, en quittant ses certitudes, un Dieu qu'il ne connaît pas, mais dont il a la certitude intérieure. C'est ce qui s'exprime pendant les trois premières strophes. Cette jeune fille va retrouver son amant en un endroit qui va être décrit tout à l'heure, dans une des plus belles strophes de la poésie espagnole, où Jean de la Croix va décrire la fusion des corps, qui est l'image de la fusion des esprits. Ce que décrit Jean de la Croix, ce n'est pas un amour oblatif. Hein. C'est véritablement un amour qu'on pourrait qualifier de passion, au sens humain. Enfin, ce qui est décrit, c'est une passion de jeunesse.
Un amour qui va brûler.
Un amour qui va brûler. Aux nuits qui a guidé, aux nuits aimables plus que l'aube, aux nuits qui réunit l'amant avec l'aimé, l'aimé en l'amant transformé. Donc la métaphore est érotique. Et ce qui est mis en avant, c'est le contexte, c'est la nuit, parce que c'est dans la nuit que cette immense liberté des amants qui se rencontrent en secret dans la rue, c'est dans la nuit qu'elle peut se manifester. Jean de la Croix, qui nous apparaît comme un maître spirituel et qui nous propose des normes, nous venons de le voir dans la montée du Carmel avec des règles, il donne des indications pour atteindre l'extase, c'est aussi le grand poète de la liberté. Il y a quelque chose chez lui qui remet en question, on va dire, les conventions de la vie sociale. La strophe suivante exprime, décrit littéralement ce qui se produit dans une union intime habituelle. Je lis, la jeune fille parle. Sur mon sein fleuri, qui pour lui seul tout entier se gardait, c'est là qu'il s'endormit. Et je le caressais. Et l'éventail de cèdre l'air faisait. Donc il y a un endormissement de l'amant sur le corps de sa belle, qui est décrit par la belle. Ce qui est intéressant d'un point de vue de l'histoire de la poésie, c'est que nous avons l'expression de l'amour du point de vue féminin, mais décrit par un homme. Jean de la Croix est un homme. Mais la voix poématique est une voix féminine. Et on voit les amants à la strophe 7 qui sont... Alors, la strophe 7 est difficile dans le grand théâtre du monde, c'est pour ça que les auditeurs ont intérêt à le lire avec un commentaire. Pas forcément le commentaire de Jean de la Croix qui est extrêmement long, mais un commentaire bref, hein, pour suivre le sens littéral. On découvre que les amants se sont installés dans les douves de la ville. Ils sont au bord de la muraille. Et l'air traverse le créneau, l'air du créneau, quand moi ses cheveux j'écartais, de sa main sereine au cou me blessait. Autrement dit, la jeune fille caresse les cheveux de son amant endormi sur son sein, en même temps qu'elle est traversée par l'air qui passe à travers le créneau des murailles au pied duquel les amants se sont retrouvés. Bien entendu, ils ne se sont pas retrouvés sur la place du village ou de la ville. Donc il y a toute une image très concrète d'un phénomène commun, hein, la rencontre des jeunes amants, qui sert à décrire l'union mystique, qui est toujours une union, on va dire, non habituelle. Et de fait, la mystique n'est jamais présentée dans l'Église institutionnelle comme le modèle à suivre. On a du mal avec les mystiques. L'histoire de l'Église le montre. Et le mystique, il va au bord de la muraille. Il n'est pas au cœur de la ville pour rencontrer
Dieu.
Alors,
puisque vous parlez du mystique au bord de la muraille, le mystique, au fond, il y a la liberté qu'on peut noter.
Oui.
Il part sur des zones... non sécurisé, le mystique.
Le mystique est hors norme. Et d'ailleurs, quand on lit...
D'où la difficulté de comprendre le mystique.
Oui. Ce cas, et les œuvres de Jean de la Croix...
Et on se méfie, on est prudent face à tous les mystiques.
Oui, l'histoire de l'Église montre que bien des mystiques ont été mis à l'index. Les œuvres de Jean de la Croix lui-même ont circulé de son vivant en manuscrit, n'ont été imprimées qu'après sa mort. Il y a toute une tendance qui reconnaît la mystique dans la théologie chrétienne, mais la mystique est souvent aux marges. Et le mystique est souvent mis à l'écart de l'institution, ou présenté comme une exception. Mais il n'est pas souvent recommandé de vivre les mystiques. C'est quelque chose d'ailleurs que Jean de la Croix a probablement intégré dans sa propre vie. C'est une interprétation personnelle que je propose. Mais toute l'écriture de Jean de la Croix part de la poésie. C'est-à-dire, d'après moi, d'une tentative de placer dans un langage qui n'est pas immédiatement signifiant, un langage complexe, un langage synesthésique qui relie de nombreuses sensations, placer dans le langage quelque chose qui est indicible. Bon. Placer dans le langage pour lui, pour pouvoir revenir à l'expérience, mais aussi pour pouvoir la transmettre. Jean de la Croix, c'est aussi un prédicateur. Bon. Mais cette expérience, c'est une expérience individuelle. Elle est en soi, elle ne peut pas être complètement répétée. Donc, les traités théoriques de Jean de la Croix visent à expliquer ses poèmes, à donner des méthodes, tout en sachant que l'extase n'est pas une pratique industrielle. On ne peut pas la répéter. Le mystique, il est toujours très individualisé. Et je me demande dans quelle mesure les traités théoriques de Jean de la Croix ne sont pas un essai pour lui, probablement réussi, puisqu'ils ont donné lieu à toute une école de spiritualité, mais ne sont pas une tentative de revenir au bercail, de placer son expérience dans l'expérience commune de l'Église, de placer la mystique au centre, pourrait-on dire, enfin, dans un centre de l'expérience de l'Église. Parce que la mystique n'est pas au centre de l'expérience de l'Église.
On arrive à la fin, malheureusement, François Bonfils, de cette deuxième émission autour de Jean de la Croix. Les auditeurs qui vous ont peut-être suivis, qui ont encore peut-être aussi l'envie de découvrir Jean de la Croix dans ses poèmes. Et merci des quelques extraits aussi de ce poème de la nuit obscure. On peut garder Jean de la Croix comme aussi un grand prédicateur, un grand poète. On peut le prendre aussi, au fond, oser cheminer avec lui, comme on cheminerait avec Thérèse de Lisieux, que vous avez nommée au cours de l'émission, ou de la grande maîtresse, la madre Thérèse d'Avila. On peut prendre le risque de cheminer aussi en lisant Saint Jean de la Croix. C'est un bon conseil que vous pouvez donner?
Alors, un conseil. Chacun trouve ses auteurs. Jean de la Croix est un auteur qui m'a beaucoup accompagné.
Vous avez été saisi par
lui. Donc moi j'ai été saisi par lui. Je suis certain que d'autres le seront.
Jusqu'à devenir traducteur de la plupart de ses œuvres.
De ses poèmes.
Voilà. Donc vous êtes vous-même un grand lecteur de poèmes.
Oui, bien sûr. Je suis professeur de littérature et plus j'avance, plus je me dis que la poésie est le genre des genres.
Merci infiniment. Et nous terminons donc ce Vivante Église avec vous. Donc je rappelle que François Bonfils, vous êtes professeur agrégé de littérature à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et spécialiste de la littérature mystique espagnole avec notamment... l'œuvre et les œuvres de Jean de la Croix et en particulier aussi les poèmes de Jean de la Croix que vous avez traduits. Merci infiniment.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.